France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
En cette période de l'année où nous sommes absolument tous fatigués, quels sont les mécanismes physiologiques de la fatigue et à partir de quand devient-elle pathologique ? C'est pénible de travailler, de réfléchir, de faire du sport. Les batteries sont à plat. On estime que 18 à 27% de la population française souffre de fatigue. Elle peut être physique ou mentale et on sait que la fatigue physique n'est pas que musculaire. Ce phénomène banal que l'on expérimente tous est assez complexe à définir. Dans certains cas, elle peut être aiguë mais peut devenir chronique. Le syndrome de fatigue chronique toucherait 250 000 personnes en France, bien que la moitié des cas seulement seraient diagnostiqués. Mais peut-être faudrait-il parler d'épuisement, ce qui rendrait mieux compte de la sévérité de cette maladie. La fatigue sous toutes ses formes. Mathias Pessiglione, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche INSERM et co-directeur de l'équipe Motivation, Cerveau et Comportement à l'Institut du Cerveau. Nous serons rejoints dans quelques instants par François Géraud Mottier, qui est neurologue et un des rares spécialistes en France du syndrome de la fatigue chronique. Donc merci à vous d'avoir accepté notre invitation.
Avec plaisir.
Merci d'être avec nous en direct sur France Culture et merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre fil podcast sur l'appli Radio France. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Blue Sky. Tous les jours, nous postons pour vous toutes nos sources. C'est sur notre compte @sciencecqfd. Alors quel rôle joue le cerveau dans la fatigue? Quelles sont les régions cérébrales impliquées? Et comment fatigue physique et mentale sont-elles liées? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais on commence avec une première tentative de définition. C'est notre archive du jour.
Comme la douleur, la fatigue est un phénomène universel dont chacun possède l'expérience. Comme la douleur, c'est un phénomène subjectif et incommunicable et difficile à définir avec rigueur. Le mot lui-même est assez ambigu, puisqu'il y a 2 siècles encore, il était considéré comme synonyme de travail. À vrai dire, les choses, et pas seulement les mots, sont étroitement solidaires. À quelques réserves près, il n'est pas possible de travailler sans ressentir une fatigue. Tout effort appelle un repos compensateur, et la fatigue est précisément le mécanisme régulateur de l'effort et du repos. À ce titre, elle n'est pas nécessairement intense, ni nécessairement pénible. C'est une expérience vécue qui engage tout l'être et qui est influencée par quantité de facteurs antécédents ou concomitants. Ces facteurs sont les uns propres au sujet, comme son état de santé physique et mentale, son passé, les buts qu'il se propose, etc., et les autres propres au milieu extérieur, comme les conditions atmosphériques, les obstacles rencontrés, la pression sociologique exercée, voire la contrainte économique ou matérielle, etc. Depuis plusieurs décennies, la fatigue a mis en échec de nombreux chercheurs qui s'étaient fourvoyés dans diverses impasses. Pendant longtemps, l'on a cherché un test unique de la fatigue, ou bien l'on a cru que seul comptait la fatigue musculaire, ou bien l'on s'est acharné à rechercher des différences entre plusieurs sortes de fatigue, fatigue objective et fatigue subjective, fatigue musculaire et fatigue nerveuse, etc., ou bien l'on s'est figuré que la nature accomplissait un saut entre le moment où l'on n'est pas fatigué du tout et le moment où l'on est tout à fait fatigué.
Voilà un extrait de l'émission Heure de culture française diffusée sur la RDF en 1960 et la voix du médecin Claude Weil. Alors Mathias Pessiglione, 2025, on n'a toujours pas de test unique de la fatigue.
Non, c'est vrai que c'est une notion qui est difficile pour les recherches, difficile à appréhender, difficile à comprendre. Ce que souligne l'archive, c'est que en fait, ça fait très longtemps qu'on cherche à comprendre la fatigue. En fait, les études sur la fatigue sont à peu près aussi vieilles que la psychologie expérimentale, c'est-à-dire que ça date du début du XXe siècle. Il y avait beaucoup d'éléments intéressants, notamment la question de savoir si il faut adopter une définition objective ou subjective de la fatigue. Et ça, c'est un petit peu clé, parce qu'en fait, les deux sont importants. La fatigue subjective, c'est important parce que c'est ce qui peut ennuyer le patient en clinique, par exemple. Il va nous rapporter une plainte, je me sens fatigué, j'arrive pas à faire les choses, etc. Tout me demande un effort. Le problème avec cette notion subjective de fatigue, c'est que, comme c'était dit d'ailleurs dans l'archive, on a une très mauvaise introspection pour la fatigue. C'est difficile en fait de savoir si on est vraiment fatigué ou pas. Et on mélange la fatigue avec beaucoup de choses. Par exemple, avec des questions d'humeur, avec des questions de motivation, si on est frustré, si on n'a pas envie. On peut croire que c'est parce qu'on est fatigué, alors qu'en fait, on n'est pas motivé. Et on voit comme ça, alors c'est très vrai, je sais pas, chez les enfants, par exemple, qui veulent pas aller se coucher, même s'ils n'arrivent pas à se concentrer sur quoi que ce soit. Ça se voit avec les patients, par exemple, si leur insight est compromis en cas de démence ou psychose. Mais en fait, ça se voit chez tout un chacun. C'est très difficile de savoir à quel point on est réellement fatigué.
Vous voulez dire qu'il y a un hiatus comme ça entre la sensation subjective de fatigue et l'état objectif de fatigue du cerveau?
Oui, alors évidemment les deux sont liés. En général, si je me sens fatigué, c'est parce que il y a une vraie fatigue derrière, mais ne sont pas étroitement liés. Donc je peux très bien avoir une impression de fatigue sans l'être, et inversement, je peux nier ma fatigue alors que je suis déjà dans un état d'épuisement avancé. Par exemple, si j'ai à cœur de continuer à faire les choses parce que j'en suis fier ou que je veux rendre service, etc. Et donc en recherche, en laboratoire, on essaye de se tenir à une définition objective. Et dans ce cas-là, on va dire que la fatigue, c'est un état on peut caractériser, par exemple, sur le plan comportemental, quelqu'un qui est fatigué, il va éviter les efforts, il va chercher le repos, ça c'est assez intuitif. Et on peut aussi le caractériser sur un plan neurophysiologique. Donc on peut faire des mesures, notamment des mesures cérébrales. Un cerveau qui est fatigué, c'est pas la même chose qu'un cerveau qui n'est pas fatigué.
Vous, Mathias Pessiglione, vous travaillez sur la fatigue objective. Alors que se passe-t-il quand on se sent fatigué? Il existe en effet une définition très objective de la fatigue. Et soyez le bienvenu, François Jérôme Autier. Je vous en prie, installez-vous à notre table, ici même. Merci, merci bien. Et je reprends le cours de cet entretien avec vous, Mathias Pessiglione. En effet, cette définition objective de la fatigue, cet état neurophysiologique, comment se définit-il?
Il se définit comme l'état qu'on rencontre après un certain travail et comme prédisposant à certains comportements et notamment à certaines décisions. Donc en laboratoire, on peut induire ce phénomène de fatigue. Alors on parle de fatigue cognitive parce que c'est une fatigue qui est liée au fonctionnement du cerveau. Avec des tâches qu'on dit aussi cognitives qui font appel à certaines capacités comme la mémoire de travail, le contrôle inhibiteur, etc. Toutes ces capacités qu'on rassemble sous le terme de contrôle cognitif. C'est peut-être la notion centrale qu'il faut introduire. Dans le cerveau, il y a en sorte deux façons de fonctionner, deux modes. Vous avez un mode automatique, où je peux directement relier la situation dans laquelle je suis au comportement que je dois adopter. Par exemple, je peux marcher en parlant, ça c'est très facile. Pourquoi ? Parce que la parole et la marche sont prises en charge par des modules distincts dans le cerveau qui peuvent parfaitement fonctionner en parallèle. Maintenant, il y a des choses que je ne peux pas faire en même temps. Par exemple, je ne veux pas écouter ma fille me raconter sa journée et en même temps lire un livre de philosophie. Pourquoi ? Parce que les deux font appel à une espèce de système central qui est le système de contrôle cognitif. Donc chaque fois que je dois surveiller mon comportement et que je n'ai pas mis en place des automatismes appropriés, je fais appel au contrôle cognitif. Et en fait, cette faculté cérébrale, qui a une localisation dans le cerveau, elle correspond aux régions latérales, c'est-à-dire sur les côtés, derrière les tempes du cortex préfrontal, cette fonction-là va fatiguer. Et lorsque cette fonction est fatiguée, on peut d'une part le caractériser par des mesures d'imagerie, en IRM par exemple, ou par EEG, et on peut aussi s'en apercevoir par des tests comportementaux, qui sont des tests de décision. On va demander aux participants de prendre des décisions, par exemple, est-ce qu'ils veulent ou non faire un petit effort pour avoir une petite récompense, ou attendre un petit délai pour avoir une petite récompense. Et lorsqu'ils sont fatigués, ils ont tendance à refuser ces efforts. Donc, lorsqu'on est fatigué, on prend des décisions dites impulsives, dans le sens qu'on privilégie le court terme, on choisit les actions qui ne demandent pas d'efforts et qui amènent des gratifications immédiates, au détriment des conséquences à long terme.
C'est pour ça qu'on peut observer des personnes perdre patience, par exemple, plus facilement quand ils sont fatigués.
Exactement. La fatigue peut se manifester de façon différente, en fait, suivant les personnes. Vous avez des personnes qui deviennent impatientes ou irritables sous l'effet de la fatigue. Et vous avez, au contraire, des personnes qui s'éteignent, qui ne font rien et qui sont plutôt sur le versant « je minimise les efforts ».
François Jérôme Autier, vous nous avez rejoint. On vient d'écouter une archive qui nous parlait justement en 1960 de la recherche d'un test unique de la fatigue. On n'a toujours pas trouvé de fatigomètre. Pourtant, il existe aujourd'hui des échelles pour mesurer la douleur, par exemple.
Oui, oui, mais il existe des échelles pour mesurer la fatigue. Donc ça existe. Donc c'est des points clinimétriques. Ce qui est toujours problématique, c'est qu'on n'a pas de vrais marqueurs biologiques, ou en tout cas de biomarqueurs, comme on dit dans notre jargon, pour voir si les patients ont un niveau de fatigue ou une condition pathologique qui est associée à une plainte de la fatigue. Parce que comme vous l'aviez noté, la fatigue c'est extrêmement banal comme symptôme. C'est-à-dire tout le monde sait ce que c'est la fatigue, et en même temps, ça paraît pas bien grave. Quand vous dites « je suis fatigué, fin de journée », ok, tout le monde comprend. Pourtant, vous avez des patients, ils vont avoir quelque chose de différent, c'est-à-dire une fatigue anormale. Alors la fatigue, faut bien comprendre que c'est un système de défense quand même de notre organisme. C'est pour nous obliger à cesser des activités quand on en a un peu trop fait. C'est donc un système d'alerte. Alors on le comprend très bien pour la fatigue physique. J'ai passé ma journée à scier du bois, au bout d'un moment j'en peux plus, j'arrête, je vais me mettre dans mon canapé, donc ça c'est assez clair, on va se reposer. Pour la fatigue mentale, on le comprend aussi, pour ceux qui travaillent beaucoup, on passe la journée à travailler sur des dossiers, à la fin on n'a plus les yeux en face des trous comme on dit vulgairement. Donc ça c'est des schémas assez simples, mais ce qu'il faut comprendre c'est par exemple la fatigue quand vous êtes malade, quand vous avez la grippe, c'est un vrai mécanisme intelligent. Contrairement à ce qu'on croit. C'est-à-dire que ça vous oblige à rester chez vous, ce qui est une sorte d'auto-confinement qui évite que vous alliez répandre les virus partout à vos congénères. Et puis aussi, ça vous permet d'économiser votre énergie. Et votre énergie, vos ressources énergétiques, elles vont être utilisées par le système immunitaire pour vous défendre. Donc tout ça, c'est des systèmes qui sont physiologiques à la base. Ce qui n'est pas physiologique, c'est quand la fatigue n'arrive pas à partir. Parce qu'elle doit évidemment partir, la fatigue.
Là, vous évoquez la grippe, mais c'est vrai que d'un point de vue pathologique, la fatigue, c'est quelque chose d'absolument non spécifique qu'on retrouve dans tout un tas de pathologies, François-Jérôme Autier.
Oui, et ben c'est bien ça le problème. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de moins spécifique que la fatigue. C'est-à-dire quand vous avez ça dans des maladies neurologiques, dans des cancers, dans des infections, et puis chez des patients chez qui on ne voit pas de maladie. Et ben ça, c'est un vrai problème parce que ces patients, ils sont extrêmement fatigués. Ils sont parfois grabataires, c'est-à-dire incapables de quitter leur lit ou pour des brefs instants dans la journée. Et pour autant, quand vous les examinez, ben vous trouvez pas, avec les moyens d'investigation, de soins de routine actuels, parce que ça, c'est aussi une question qui est importante à prendre en compte, mais disons avec les moyens usuels d'investigation des patients, on ne trouve rien, on leur dit c'est dans leur tête, ce qui est d'ailleurs vrai, puisque c'est des mécanismes neurologiques, certainement, de contrôle de la fatigue, mais pas, on ne leur dit pas au sens physiologique du terme, bien sûr.
Mathias Pessiglione.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, peut-être ce qu'il faut mettre au clair, c'est la différence entre la fatigue mentale définie en clinique, qui se fonde sur la plainte, et donc sur le rapport subjectif du patient. Donc on est dans la définition subjective de la fatigue. Et c'est vrai qu'on en voit de la fatigue dans quasiment toutes les pathologies, j'ai envie de dire. Les pathologies du cerveau, donc c'est très vrai en neurologie, sclérose en plaques, dégénératif, AVC, etc. C'est très vrai dans les maladies psychiatriques, quelquefois ça fait même partie des symptômes diagnostiques, alors c'est évidemment très vrai dans la dépression. Mais en fait, dans toutes les pathologies, les maladies infectieuses, on en a parlé, une hépatite peut créer une forme importante de fatigue, les cancers évidemment, et pas seulement les cancers du cerveau, vont créer de la fatigue. Donc c'est un mot un petit peu fourre-tout qu'on retrouve partout, et c'est pour ça que j'ai essayé de démarquer une notion que j'appelle fatigue cognitive pour essayer de la dissocier de la fatigue mentale, et qui est vraiment celle qui est induite par un travail exigeant, soutenu sur plusieurs heures. Pour donner un exemple, qui me paraît d'ailleurs assez éclairant, c'est l'exemple du jeu d'échecs. Pourquoi le jeu d'échecs ? Parce que quand on commence à jouer aux échecs, on connaît les ouvertures, on a son répertoire, donc on peut jouer ses automatismes. Ça demande pas beaucoup d'efforts. Quand on arrive dans une configuration qu'on n'a pas travaillée au préalable, c'est là qu'il faut faire appel à ce que j'appelais le contrôle cognitif, commencer à planifier ses coups en fonction des conséquences, etc. Et c'est là qu'on commence à fatiguer. Et peut-être c'est intéressant de faire la différence entre notre cerveau humain, de nous pauvres mortels, et ce que font les IA. lorsqu'elle joue aux échecs. Et on s'en est aperçu de longue date, en fait. Je repense à la première fois où un champion humain, c'était Garry Kasparov, en 97, je crois, contre Deep Blue. Donc la première fois où un être humain a perdu contre une machine. Et ça a fait sensation, parce qu'on pensait que les échecs étaient le genre de haute activité intellectuelle, summum de l'esprit humain, etc. Il s'avère que les machines font beaucoup mieux que nous. Et lorsqu'on a demandé à Kasparov, parce que les journalistes ont demandé à Kasparov d'expliquer pourquoi, comment est-ce qu'il avait pu perdre contre une machine, il n'a pas dit parce que la machine a des super algorithmes d'apprentissage profonds ou a des super possibilités calculatoires. Il a dit quelque chose de très simple. Il a dit, en fait, Deep Blue jouait tellement vite que j'avais pas le temps de me reposer entre les coups et je me suis épuisé.
La fatigue ne s'épuise pas.
Et ça, c'est frappant parce que finalement, est-ce que c'est pas une des clés des différences entre l'homme et la machine? Pas simplement les capacités de mémoire ou la vitesse du processeur ou je ne sais pas quoi, mais simplement, nous, si on doit faire un travail compliqué sur plusieurs œuvres, on finit par s'épuiser alors que la machine peut continuer sans arrêt.
C'est le cas, par exemple, en effet, des traducteurs professionnels qui travaillent par pair, qui font des roulements toutes les 30 minutes parce qu'au-delà de ça, leur cortex préfrontal est épuisé. Alors quels sont les dessous neurochimiques de la fatigue mentale? Que sait-on de la biochimie de ce type de fatigue? Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Trioux.
Qu'est-ce que tu fais quand tu es fatigué?
Je m'assois dans un coin et puis j'écoute le poste.
Ça t'arrive d'être fatigué?
Oui, parfois.
Un petit peu, ça dépend.
Pas beaucoup?
Non, pas trop, ça va. Oui, mais c'est surtout le matin que je ressens.
Quand il faut
surtout quand je commence pour 8 heures.
Quand il faut se lever? Alors comment tu fais?
Je me lève parce qu'il faut bien.
Alors qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là?
Quand je suis fatiguée, surtout quand c'est le soir, j'ai pas tellement envie de travailler. Alors des fois je bâcle, alors j'arrête et puis j'attends peut-être une demi-heure pour que ça me passe, que je me sens mieux, puis après je continue mes devoirs.
Est-ce que tu as constaté les causes? Est-ce que c'est une fatigue physique ou à la suite d'un effort physique ou au contraire intellectuel?
Je crois que c'est les deux.
C'est la première année que je vais en lycée, comme je suis en sixième, ça change de l'école primaire. Je me lève plus tôt. Je reviens du lycée plus tard, j'ai beaucoup plus de leçons et de devoirs.
Et qu'est-ce qui vous fatigue?
La gymnastique. Non, il y a les devoirs, quelquefois la journée a été dure, il y a eu des ennuis. Puis quand on fait des efforts, par exemple dans les cours d'éducation physique, les footings sous la pluie. Hein.
En direct sur France Culture avec Mathias Pessiglione et François Géraud-Mauty, nous parlons de fatigue. Alors voilà, quand on fait de la gymnastique en cours de PS ou quand on scie du bois, j'ai Mathias Pessiglione, que sait-on des mécanismes sur lesquels repose la fatigue physique?
En fait, la fatigue physique, c'est peut-être le cas le plus compliqué parce que lorsqu'on fait un effort physique, il y a à la fois de la fatigue physique et de la fatigue mentale. Alors que quand on fait un effort intellectuel, il n'y a que de la fatigue mentale. Mais donc, il se passe en fait les deux sortes de choses. C'est-à-dire que d'une part, j'ai une fatigue qu'on pourrait dire périphérique, pour pas dire physique, qui est liée au travail des muscles et des articulations. Et vous avez des changements, par exemple, de pH, de lactate, des changements physiologiques dans les muscles qui vont être ressentis par le cerveau et donc vont générer cette sensation de fatigue et qui correspondent effectivement à la difficulté à continuer ses activités sportives, sa gymnastique, et font qu'on a tendance à vouloir arrêter et à se reposer. Il faut toujours penser la fatigue effectivement comme un mécanisme régulateur qui nous conduit à nous arrêter pour faire une pause, et dans bien des cas c'est adapté. Maintenant, il y a beaucoup de sports où il y a aussi une fatigue mentale, donc c'est pas que dans les muscles. Il peut y avoir une fatigue mentale parce que il faut se concentrer et prendre des décisions. Je sais pas, si je monte à un mur d'escalade par exemple, je suis sans arrêt en train d'analyser la situation et de prendre des décisions. J'avais une fois vu une interview de Charles Leclerc, le pilote de Formule 1, qui expliquait qu'en fait, pendant la course, il dialoguait sans arrêt avec les personnes de son stand et prenait sans arrêt des décisions, y compris très compliquées, sur un plan assez technique. Donc on imagine que le pilote ne fait que tourner le volant, c'est pas ça du tout en fait la réalité de la Formule 1. Donc on comprend qu'à la fin, il soit très fatigué. Mais même dans des sports qui paraissent très simples, comme des sports d'endurance, je sais pas, un marathon, en fait, on va avoir une fatigue mentale. Pourquoi ? Parce que au bout d'un certain temps, je fais un marathon, ça fait mal dans les muscles, dans les articulations, et là vous avez un automatisme, un réflexe que le cerveau va mettre en œuvre, qui est ça fait mal, je m'arrête. Mais maintenant, si j'ai une forte motivation pour terminer la course ou performer, faire un bon temps, je sais pas quoi, je vais passer par-dessus cet automatisme, et c'est là qu'intervient à nouveau la notion de contrôle cognitif, ce qu'on pourrait aussi appeler la volonté ou le mental, diraient les commentateurs sportifs, pour inhiber ce réflexe et maintenir la course. Et ce contrôle cognitif à nouveau requiert les régions du cortex préfrontal latéral. Ce sont ces régions qui vont s'épuiser. Donc un marathon engendre une fatigue physique intense à la fin, mais aussi une fatigue mentale.
François Jérôme Autier, sur ces liens justement entre fatigue mentale et fatigue physique. Enfin, parce qu'en effet, c'est intéressant de voir que finalement la fatigue mentale est partout, quoi que l'on fasse.
Ah oui, quoi qu'on fasse, ça c'est certain. Vous aviez parlé des questions de sport, enfin on le retrouve partout en sport. On le voit très très facilement, il y avait un travail qui a été publié récemment sur justement la prise de décision chez golfeurs au cours d'un match de golf par exemple, et on voit que plus la durée de jeu est longue, moins ils arrivent à faire des choix pertinents, notamment dans le choix du fer, par exemple. Ce qui, quand vous êtes un peu novice, vous voyez pas ça vraiment comme étant une erreur. Mais en fait, pour un golfeur, c'est une erreur. C'est-à-dire qu'on a de la prise de décision qui intervient dans un acte qui est éminemment technique et physique, et qui justement peut les faire perdre ou faire gagner l'adversaire selon la position. Et donc, on voit très bien cette interrelation. Il faut savoir qu'un exercice physique, c'est ce qu'on a dit, hein, c'est-à-dire que vous allez libérer énormément de médiateurs qui vont pouvoir diffuser dans l'ensemble de l'organisme, et notamment informer le cerveau, parce que le cerveau, il a besoin d'être informé. C'est un système, comme on dit parfois, interoceptif, c'est-à-dire qui récupère des informations de partout. La vision classique qu'on a, notamment en neurologie, hein, puisque je suis neurologue, c'est l'innervation sensitive partout, mais il n'y a pas que ça. Il y a des molécules circulantes, il y a les lactates, il y a des tas de choses, des molécules inflammatoires qui vont nous informer le cerveau en permanence. Et donc le cerveau va avoir un réflexe, et le déclenchement de la sensation de fatigue, eh bien ça peut effectivement déborder du seul champ de la fatigue physique, et notamment parce que je crois que physiologiquement c'est un système d'alerte. Et qu'il est important, si vous voulez que quelqu'un s'arrête, il faut générer de la fatigue cognitive ou mentale, comme on peut l'appeler. Mais c'est des éléments importants. Et c'est vrai que si vous promenez votre chien très longtemps, sauf si c'est vraiment un chien de traîneau qui a beaucoup plus de résistance que vous, mais si vous avez un chien qui n'est pas très résistant, au moment où il est fatigué, il va s'arrêter. Il va se coucher, et là vous pourrez faire tout ce que vous voudrez, il ne bougera pas. Vous n'aurez qu'à le prendre sur vos épaules et à rentrer avec votre chien sur les épaules. Parce que lui, il n'a pas cette espèce de ressort, de mécanisme supraphysique qui va être de dire « il faut que j'y aille quand même ». Donc, vous voyez, nous, on a une particularité chez l'homme, c'est qu'on est capable de surmonter le signal de fatigue physique, mais ce n'est pas forcément toujours une bonne chose du reste.
Là, vous évoquez en effet les lactates. Quand les muscles sécrètent du lactate, en s'accumulant, ça crée cette sensation de fatigue musculaire. François Jérôme Autier, quels sont les marqueurs qui permettent d'attester de la fatigue mentale, des marqueurs objectifs ?
Mais on n'a pas vraiment de marqueur objectif. Ça, c'est un vrai problème, d'ailleurs. Alors, on peut en trouver. Alors, il y a des travaux de recherche qui montrent qu'on peut les trouver. Mais ça, vous parlerez certainement mieux que moi de ça. Mais c'est vrai que c'est véritablement un des problèmes. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, dans une pratique médicale de soins, fut-il spécialisé ou surspécialisé, mais qui reste quand même du soin de routine, on a quand même les seules méthodes d'évaluation, c'est quand même des échelles qu'on a. Alors évidemment, nous on travaille pas sur le marquage ou la quantification de la fatigue chez le sujet sain. Ça, c'est de l'expérimentation. C'est du travail de recherche académique ou cognitive. Quand on fait du travail, nous, on travaille évidemment sur le patient, ce qui est tout un peu différent, c'est-à-dire qui arrive avec une fatigue de base.
Alors, quelles sont ces échelles, justement? Comment on évalue cette fatigue-là?
Alors, il y a sans rentrer dans les détails, vous pouvez quantifier. Par exemple, le plus simple, c'est de mesurer l'échelle visuelle analogique. C'est quelque chose de très simple, qui marche d'ailleurs pour plein de situations. Elle a été développée dans la douleur, mais vous pouvez très bien l'utiliser pour la fatigue. Et c'est très fiable. Et c'est un marqueur fiable. Après, il y a des questionnaires, des auto-questionnaires, qui sont plus ou moins précis, qui montrent ce que vous avez fait, ce que vous ressentez, ce que vous ne pouvez plus faire, etc. Donc, on peut multiplier les questions. Avec un point qui est important à prendre en compte, c'est que quand vous faites travailler quelqu'un qui est très fatigué sur un questionnaire, vous pouvez induire de la fatigue. Donc ça, c'est un piège. Donc et c'est comme pour les bilans neuropsychologiques qu'on fait en pratique, on essaye de les concevoir d'une façon qu'ils ne fatiguent pas trop les patients pour ne pas avoir un effet lié à la passation du test qui soit pas le reflet de la maladie elle-même.
Ce qui est jaugé, donc, par exemple, c'est tout ce qui est trouble de l'attention, vitesse de traitement de l'information, ces choses-là.
Ah oui, absolument. C'est-à-dire qu'il y a un fil rouge. Alors, on avait fait un travail avec un de mes collègues qui est neuropsychologue. On a fait une méta-analyse de tout ce qui avait été publié sur les troubles cognitifs du syndrome de fatigue chronique. On se plaçait dans le syndrome de fatigue chronique, hein, pas sur les aspects, je dirais, plus physiologiques. Il y avait énormément de publications très hétérogènes. En fait, elles sont très hétérogènes parce qu'elles n'utilisent pas les mêmes tests. Mais quand vous reconstituez, vous les mettez tout ensemble et que vous réanalysez, vous apercevez qu'il y a vraiment un fil rouge qui est effectivement l'attention en entrée visuelle et la vitesse de traitement. Ça, c'est ce que tous les patients qui ont un syndrome de fatigue chronique vont avoir. Puis vous avez des patients qui vont avoir un vrai déficit sur les fonctions exécutives et certains qui vont rajouter un déficit sur la mémoire épisodique. Avec une formule qui est assez stéréotypée, et en fait, dont on n'est pas certain, à part l'attention et la vitesse de traitement, qu'elle soit corrélée au niveau de fatigue.
Et on reviendra dans quelques instants. Deuxième partie de l'émission, surtout sur cette question, en effet, du diagnostic aussi du syndrome de la fatigue chronique. Mais pour revenir sur ce signal d'alerte qu'est la fatigue, cette fatigue cognitive qui avertit donc notre cerveau d'un risque de surchauffe, Mathias Pessiglione, quelle est justement la question de l'origine de la fatigue? Ça, il me semble qu'il y a deux camps. Le camp des théories fonctionnelles ou motivationnelles et puis le camp des théories biologiques.
Oui, tout à fait, vous êtes bien renseigné. En fait, la théorie fonctionnelle, des fois on dit aussi théorie motivationnelle, dit simplement que la raison, la contrainte pour laquelle ce mécanisme de fatigue existe, c'est une contrainte d'adaptation. En fait, la bonne fée sélection naturelle a doté notre cerveau au cours de son évolution de ce mécanisme régulateur qui fait que on va pas persister sur une même tâche trop longtemps, on va changer de tâche. Et en fait, c'est un mécanisme qu'on peut voir comme favorisant la flexibilité et donc l'exploration de différentes possibilités d'endroits, de comportements, etc. Ce qui, pour la survie de l'espèce ou pour le succès reproductif, faut parler comme Darwin, paraît adapté. Et donc pour ces gens-là, pour la théorie fonctionnelle, la contrainte est purement du côté de l'adaptation. Et puis dans l'autre camp d'en face, vous avez donc les théories biologiques qui disent que non, en fait, il y a une contrainte en dur dans la façon dont le cerveau fonctionne, qui fait que au bout d'un moment, on doit s'arrêter. Et en fait, dans ce camp-là, vous avez encore deux sous-équipes. Vous avez l'équipe pour lesquelles la contrainte vient de l'épuisement d'une ressource énergétique. Donc en fait, quand le cerveau travaille, il épuise une source d'énergie. Ça peut être le glucose. En fait, c'est probablement pas le glucose. Il y a un certain nombre de contre-arguments à ça, mais en tout cas, l'idée n'est pas complètement abandonnée. Et puis, vous avez une deuxième sous-équipe qui dit non, le problème n'est pas qu'on épuise une source d'énergie, le problème est qu'on accumule des dérivés métabolites qui seraient potentiellement toxiques pour l'organisme, qui empêchent le cerveau de bien fonctionner. Et donc, la fatigue devient un mécanisme qui permet d'empêcher l'accumulation de ces substances toxiques. Et puis donc, pour faire le lien entre les deux ponts, vous avez les conciliateurs, les casques bleus, dans lesquels je m'inscris, qui essayent d'articuler donc la vision motivationnelle et la vision biologique, et qui disent, il y a bien des contraintes biologiques, par exemple l'accumulation de toxiques, mais par-dessus, vous avez un mécanisme motivationnel. Donc par-dessus l'altération métabolique du cerveau qui fait que l'effort va devenir de plus en plus coûteux, vous avez un arbitrage motivationnel qui, étant donné ce coût de l'effort qui augmente avec la fatigue, prend la décision de continuer ou pas à travailler ou bien de s'arrêter. Voilà comment mettre un petit peu les deux théories ensemble.
Et justement, dans votre étude que vous avez fait paraître en 2022 dans la revue Current Biology, Mathias Pessiglione, vous montrez que un effort mental intense et prolongé provoquerait en fait l'accumulation de glutamate au niveau synaptique. On évoquait le lactate tout à l'heure. Le glutamate, ce serait un peu la même chose, un phénomène similaire, mais un déchet métabolique de l'activité du cerveau, c'est ça, dont l'accumulation serait synonyme de fatigue.
Voilà, donc l'idée est un petit peu la même que pour le lactate dans les muscles, mais effectivement le glutamate c'est un neurotransmetteur, hein, donc c'est la molécule chimique, enfin c'est le neurotransmetteur principal du cerveau, donc la molécule chimique par laquelle les neurones communiquent entre eux, se passent des messages au travers des synapses, puisque entre deux neurones vous avez un espace, une fente que l'information va traverser au moyen de ces messagers chimiques que sont les neurotransmetteurs, dont le glutamate. Et donc ce qui se passe quand on produit un travail, alors ici dans cette étude intellectuelle intense, c'est que les neurones du cortex préfrontal vont décharger beaucoup de glutamate, ce glutamate va s'accumuler dans les synapses. Et trop de glutamate dans les synapses, c'est pas bon. Alors à très haute dose, ça fait des crises d'épilepsie, mais là, on n'est pas du tout à très haute dose. Mais même à faible dose, ça compromet le passage de l'information, donc ça compromet l'efficacité du système cérébral de transmission de l'information. Et bien sûr, il y a un tas de mécanismes moléculaires qui permettent de réguler le glutamate, de le ramener depuis la fente synaptique jusqu'à l'intérieur des neurones. Et donc vous avez un premier niveau de régulation, si vous voulez, au niveau moléculaire. Et la fatigue, c'est un deuxième niveau de régulation au niveau cerveau entier, qui dit bah, maintenant, les mécanismes moléculaires sont débordés. La seule façon d'arrêter d'accumuler du glutamate partout, bah, c'est d'arrêter de travailler.
Le sommeil, c'est quelque chose qui assure un recyclage du glutamate aussi.
Oui, alors c'est le lien entre la fatigue et sommeil. Déjà, il faudrait commencer par dire que la fatigue, c'est pas la même chose que le besoin de sommeil. Je peux avoir envie d'aller dormir, c'est pas la même chose que d'être fatigué. Mais effectivement, il y a un lien entre les deux, puisque pendant le sommeil, dans la nuit, vous avez un tas de mécanismes qui se mettent en place, qui permettent de retrouver un fonctionnement métabolique normal, on va dire, et notamment de recycler le glutamate depuis des espaces extracellulaires vers l'intérieur des neurones.
Et le glutamate n'est sans doute pas la seule molécule impliquée dans la fatigue mentale. Quelle différence entre fatigue aiguë, fatigue chronique et syndrome de fatigue chronique? À quel moment bascule-t-on dans le syndrome? Restez avec nous.
We'll be right back.
Lerida Mitsuko, fatiguée d'être fatiguée, en direct sur France Culture, car nous parlons de cet état psychobiologique en compagnie de nos deux invités du jour, François-Jérôme Autier, neurologue spécialiste en France du syndrome de fatigue chronique, et Mathias Pessiglione, directeur de recherche INSERM, co-directeur de l'équipe Motivation Cerveau et Comportement à l'ICM. La fatigue mentale ou la fatigue physique dont nous venons de parler sont des choses que nous pouvons tous expérimenter. Après un effort, ces signaux sont utiles à notre organisme pour que ce dernier prenne le temps de se ressourcer. Mais il existe aussi une fatigue dite pathologique qui est délétère pour notre organisme. Une fatigue qui ne part pas même si l'on se repose suffisamment. Et c'est le sujet de notre reportage du jour et c'est avec vous Loïc Dutoit. Bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous êtes rendu à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière où l'on diagnostique des pathologies du sommeil.
Oui, exactement. Et c'est un bâtiment dans lequel la nuit, un certain nombre de patients viennent dormir avec tout un tas de capteurs et le jour, quelques médecins sont occupés à analyser les courbes et les graphiques qui racontent cette nuit de sommeil. Narcolepsie, hypersomnie, apnée du sommeil, les causes possibles d'une fatigue qui devient chronique sont nombreuses et peuvent être liées à des symptômes qui troublent le sommeil, mais aussi à des facteurs neurologiques ou psychiatriques. Et dans ce cas, même si les nuits de sommeil sont très réparatrices, le sentiment de fatigue persiste. La première personne à qui j'ai pu parler s'appelle Nordine, il a 37 ans, fait de l'apnée du sommeil, et dans la vie quotidienne, c'est quelque chose qui l'handicape depuis un peu plus d'un an.
Au début, c'était ma femme qui me disait comme quoi je ronflais beaucoup la nuit, que je bougeais beaucoup dans mon sommeil et que je faisais un peu des cauchemars. Au début, j'ai pas pris au sérieux et c'est à la fin, quand j'ai vu que j'avais des grosses fatigues, qu'il fallait que je consulte, quoi.
Quand c'est arrivé, que vous avez commencé à être fatigué, ça s'est manifesté comment ?
Ça s'est manifesté par des réveils difficiles, des maux de tête le matin quand on se réveille, des grosses migraines, quoi, qui prennent quasiment toute la journée, hein. Des grosses fatigues toute la journée, du mal à se concentrer, des pertes de mémoire carrément, des fois, des trucs qu'on ne se rappelle même pas. La santé mentale qui se dégrade, tout ça quoi.
On est là dans un cas plutôt classique de ce que vous avez l'habitude de voir.
Oui, on a comme ça à peu près 2 millions de personnes qui font des apnées en France.
Isabelle Arnuf est chef du service des pathologies du sommeil et chercheur à l'Institut du cerveau Sorbonne Université.
C'est surtout les hommes au début qui ont des apnées plus jeunes. Mmh. Et les apnées, les gens se rendent très peu compte. Alors, de temps en temps, Nordine se rend compte que ça bloque un peu dans la gorge. Mais par rapport à 47 apnées par heure, parce que c'est ça que vous aviez, c'est l'équivalent d'être réveillé toutes les minutes et demie par un coup de téléphone. Les gens ne se rendent pas compte.
C'est comme si on était réveillé toutes les deux minutes, mais sauf qu'on on se réveille sans en avoir eu conscience.
Sans en avoir eu conscience ou en ayant très peu conscience de temps en temps. Mais la plupart des personnes se réveillent trop brièvement pour s'en souvenir, en fait. Donc c'est une espèce de pathologie invisible, quoi. S'il n'y a pas quelqu'un pour vous le dire, vous ne vous rendez pas forcément compte que vous faites de l'apnée.
Si l'apnée du sommeil est une maladie courante, il existe bien d'autres facteurs qui peuvent expliquer des somnolences en journée et une fatigue chronique. Pour définir correctement la cause de cette fatigue, il y a tout un diagnostic à suivre.
Alors quand quelqu'un vient consulter pour un problème de fatigue qui le gêne de façon régulière et chronique, la première chose qu'on demande c'est est-ce qu'un effort qui est normalement pas très intense les épuise ? Et dans ce cas-là, on est dans le registre de la fatigue physique qui n'a rien à voir avec le sommeil. Par contre, si quelqu'un dit « je suis fatigué au point de piquer du nez, de m'endormir de façon involontaire ou d'avoir vraiment du mal à me réveiller le matin, de ne pas être frais dès le matin », là, il faut aller regarder à l'intérieur du sommeil si, à son insu, elle n'a pas des brefs réveils qui rendent le sommeil moins récupérateur. Et puis, une fois qu'on a investigué le sommeil et qu'on a vu qu'il était parfait, que les stades de sommeil étaient bien respectés, que la durée était correcte, là, on va chercher des maladies rares de l'hypersomnolence, des maladies neurologiques, où la personne soit dort trop, et dormir trop, c'est en moyenne plus de 11 heures, mais vraiment dormi, mais tous les jours, ou si elle dort, on va dire 7-8 heures la nuit, mais qu'elle a des attaques de sommeil répétées dans la journée, comme on le voit par exemple dans la narcolepsie, où les personnes vont s'endormir extrêmement vite et dans des phases de sommeil inhabituelles, comme le sommeil paradoxal. Toutes ces hypersomnolences d'origine neurologique, elles sont rarissimes. La narcolepsie, c'est 0,05% de la population. L'hypersomnie, c'est encore un peu plus rare que ça. Donc c'est forcément, de par leur rareté, des diagnostics tardifs, parce que la première cause de somnolence en population générale, c'est de pas assez dormir parce qu'on est sur les écrans, par exemple, ou de prendre trop de toxiques, de l'alcool, du cannabis, des somnifères, des sédatifs. Et en troisième, les apnées du sommeil, et puis en quatrième, la dépression, qui produit quand même beaucoup d'hypersomnolence.
Vous, dans l'analyse de toutes ces pathologies, ce qui vous a intéressé aussi, c'est comment les personnes arrivent à s'adapter et à vivre avec cette pathologie-là.
Oui, quand on a comme ça un trouble de l'éveil chronique et qu'on doit aller au travail ou emmener les enfants à l'arrière en voiture, il faut avoir développé des contre-stratégies d'adaptation pour ne pas risquer d'accident de voiture. Alors, une partie des personnes avec des hypersomnolences pathologiques n'ont pas le droit de conduire. On fait des tests pour vérifier s'ils ont le droit de conduire. Mais je trouve ça très intéressant que des personnes nous expliquent comment elles font pour tenir et surtout, qu'est-ce qu'elles détectent en elles qui leur dit « là, faut que tu arrêtes la voiture, tu commences à être dangereux ou dangereuse au volant ». Je rappelle que le mieux, c'est quand même d'arrêter la voiture et de se prendre 10 minutes de repos où au mieux on dort et au pire on se repose simplement.
Il peut arriver à n'importe qui de prendre sa voiture en étant fatigué. Et dans cette situation, nous sommes tous capables d'identifier des signes qui nous préviennent qu'on risque de s'endormir au volant. Mais les personnes qui souffrent d'hypersomnolence, elles sont en quelque sorte hypersensibles à ces signes. Elles ont peu à peu développé une analyse beaucoup plus fine de ces situations qui précèdent un endormissement.
Une seconde, voilà, j'agrandis.
Pour décrire ce qu'on a sous les yeux, là, c'est un schéma avec une personne qui est au volant. Et on a des petites légendes au niveau des différents endroits du corps où ils ont une sensation qui est altérée par le fait justement d'être fatigué et qui prévient qu'ils pourraient s'endormir.
Oui, c'est exactement ça. Par exemple, la moitié des personnes disent « je sens que mon attention a diminué, que j'ai du mal à me focaliser, que je suis plus lent dans ma conduite ». Et ça peut même aller jusqu'à un vagabondage de pensée et quand c'est très sévère, j'ai même l'impression que je rêve les yeux ouverts. Évidemment, beaucoup sentent que les paupières sont lourdes, 57%, et puis que ma vision devient un peu plus fixe, que je perds les 3D, c'est-à-dire que mon cockpit, au lieu d'être en 3 dimensions, passe en vision plate. Et ça peut même devenir des flashs ou des hallucinations visuelles, ça c'est les narcoleptiques. Mmh. Inversement, on a demandé à nos patients, s'il n'y a pas la possibilité d'arrêter tout de suite la voiture sur la bande d'arrêt d'urgence et de dormir, qu'est-ce que vous avez comme système pour lutter contre cette fatigue au volant? Et donc beaucoup vont dire qu'ils ouvrent la vitre, qu'ils mettent en route la radio. Pour autant, on sait déjà dans la population normale que ça ne suffit pas à rendre les gens plus performants au volant. Il faut que la personne soit elle-même active, c'est-à-dire non seulement écoute la radio, mais qu'elle chante en même temps que les personnes qu'elle écoute à la radio, ou qu'elle se stimule elle-même. Certains vont jusqu'à se piquer, par exemple avec une petite agrafe qui est dans le toit du cockpit, pour se faire une petite douleur qui va immédiatement provoquer une décharge d'adrénaline qui leur permet de tenir les 5 dernières minutes avant de pouvoir arrêter la voiture. Donc les gens développent beaucoup de contre-stratégies pour essayer de tenir et qui pourraient peut-être être utiles aux personnes de la population générale qui n'ont pas ces problèmes d'hypersomnolence.
Merci Loïc Dutoit pour ce reportage. François Jérôme Autier, une réaction aux mots d'Isabelle Arnoulf?
Écoutez, c'est extrêmement vrai hein, tout ce qu'elle a décrit et c'est vraiment très très important de rappeler qu'il faut rechercher une pathologie du sommeil chez des gens qui ont une fatigue chronique. Ça fait partie de notre screening de diagnostic à évoquer et y compris chez des personnes qui n'ont pas le physique dans l'emploi. C'est-à-dire que si vous prenez un type de 60 ans en surcharge pondérale, éventuellement qui fume, etc., vous penserez au syndrome d'apnée du sommeil. Mais chez une petite jeune femme, simplement parce qu'elle a une conformation du palais qui est un peu particulière, ça va lui provoquer des apnées, mais ça peut passer totalement inaperçu si on ne les recherche pas par des tests appropriés. Donc ça, c'est très important. L'évaluation somnologique, elle est très importante. Il faut savoir que c'est assez simple au jour d'aujourd'hui d'avoir une bonne évaluation du sommeil, parce qu'il y a beaucoup de laboratoires dans toute la France qui font des tests de sommeil sans avoir des choses évidemment aussi sophistiquées que à Pitié-Salpêtrière, où là on est dans le top de l'investigation, hein, mais on peut faire du débrouillage en ville assez simple.
Mais alors, quelle différence entre fatigue aiguë et fatigue chronique ?
Eh ben, la fatigue chronique, c'est celle qui va durer au-delà de ce que doit durer la fatigue aiguë. Alors, c'est un peu simple comme ça, mais on comprend très bien, quand vous avez fait une infection hivernale, vous êtes fatigué, vous êtes malade quelques jours, une semaine, et puis après, ça rentre dans l'ordre et vous retrouvez votre état antérieur. Dans une fatigue chronique, vous allez avoir soit quelque chose qui s'installe progressivement, insidieusement, soit quelque chose qui est une fatigue aiguë, mais qui ne va pas se résorber normalement, qui va perdurer plusieurs semaines, plusieurs mois, et qui va impacter votre activité. Alors, dans la fatigue chronique, c'est plutôt la durée. Quand on prend le terme fatigue chronique, bon, les gens sont pas toujours d'accord, hein, mais on est 4 semaines, 3 mois, 4 mois, etc. En général, dans les critères de définition de syndrome de fatigue chronique, on est au-delà de 6 mois. Et pour parler d'un syndrome de fatigue chronique, il faut qu'il y ait un impact sur la vie quotidienne, c'est qu'il y a une diminution d'au moins 50% des activités. Donc il y a un vrai retentissement de la fatigue. C'est-à-dire que les personnes sont obligées de changer leur façon de fonctionner au quotidien. Vous avez d'autres symptômes associés, comme le mauvais sommeil, etc. Et puis surtout, dans la définition des syndromes de fatigue chronique, mis à part de répondre à des critères cliniques précis, il y a le fait qu'il n'y a pas de maladie qui puisse expliquer cela. Et ça, c'est une démarche qui est à la fois très importante et contraignante, parce que les patients vont être obligés, quand ils vont voir leur médecin, il va leur faire des examens, on multiplie les examens, les investigations, qui sont à la recherche de l'hypothétique maladie qui va entraîner la fatigue chronique, qu'on ne trouve pas, ou qu'on peut trouver d'ailleurs, parfois. Et donc après, on arrive à des situations qui sont un peu différentes. Et alors maintenant, on parle, ça c'est dans le cadre du consortium européen auquel j'avais participé sur les syndromes de fatigue chronique. On avait justement défini un groupe qui s'appelle le trouble du spectre de la fatigue chronique, les troubles du spectre de la fatigue chronique. On avait isolé des états de fatigue chronique qui sont invalidants mais qui ne répondent pas stricto sensu aux critères de syndrome de fatigue chronique, et puis des patients qui vont répondre aux critères de syndrome de fatigue chronique, ceux avec une maladie associée, qui peut éventuellement expliquer comme un cancer, par exemple, et ceux qui n'ont aucune autre maladie, qui sont les vrais syndromes de fatigue chronique, entre guillemets.
C'est ça, parce que le syndrome de la fatigue chronique est bien plus grave. On estime que 0,5% de la population représente justement ce syndrome, 250 000 personnes en France. Bon, déjà, c'est peut-être une mauvaise appellation de parler de fatigue, puisque ça ne prend pas en compte la sévérité de cette maladie. On peut donc plutôt parler d'épuisement même. Ça,
oui, aussi. Alors c'est simplement parce que c'est la traduction littérale du terme anglais. Chronic fatigue syndrome en bon français, et fatigue en anglais, c'est un terme médical et qui serait plutôt l'épuisement. Et donc nous, on a traduit simplement, et donc on a une espèce de syndrome de je suis fatigué, alors que ce n'est pas ça du tout. On devrait parler effectivement de syndrome d'épuisement.
En 2015, on avait aussi tenté de trouver un meilleur nom, maladie d'intolérance systémique à l'effort. Ça met l'accent sur la grande caractéristique de cette maladie, la diminution de la résistance. Mais le fait qu'on ne tolère plus de fournir aucun effort. Mais pourquoi ? Il y a aussi donc plein de personnes qui ne sont pas diagnostiquées. L'errance diagnostique est d'ailleurs très longue. Pourquoi est-ce si compliqué ?
Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a un premier facteur qui est que, et d'autant plus que on a l'impression qu'on est devant une maladie organique, comme on dit. C'est-à-dire qu'on a un patient qui a une vraie maladie, entre guillemets. Hein, je mets vraiment des guillemets, mais c'est-à-dire qui est convaincant. Le médecin est convaincu qu'il a vraiment une maladie qu'il n'avait pas avant. On va poursuivre les investigations en se disant « je ne trouve pas ». Mais on ne va pas prononcer de diagnostic d'exclusion qui serait le diagnostic de syndrome de fatigue chronique. Il y a d'autre part le fait qu'il y ait une méconnaissance, sinon une non-connaissance de ce syndrome, qui n'est pas enseigné dans les facultés de médecine, qui est très souvent ignoré, qui a été souvent rattaché à ce qu'on appelle les troubles neurologiques fonctionnels, qu'on appelait avant les troubles somatoformes, où il y a une psychiatrisation des patients, qui ont souvent des éléments dépressifs quand on les voit, c'est-à-dire si vous avez un patient qui est, ça fait plusieurs mois ou plusieurs années qu'il est dans un état de fatigue chronique, ça, ce qui serait anormal, c'est qu'il soit pas déprimé. Si vous voulez, parce qu'il faut quand même être, quand vous pouvez plus rien faire, que vous êtes fatigué, que les médecins trouvent pas ce que vous avez, c'est un contre-coup psychologique qui est évident.
Maintenant, en tout cas, pour être détecté, on estime qu'il faut qu'une fatigue dure depuis plus de 6 mois, souvent post-infectieuse. Il faut maintenant qu'il y ait un malaise post-effort.
Oui.
Mais alors, par rapport aux causes, elles sont multiples. Quels sont les éléments déclencheurs de ce syndrome de fatigue chronique?
Alors, ce qui est très très bien identifié, c'est les infections. Les infections virales. On en a une démonstration flagrante avec la Covid. Les Covid longs, qui sont majoritairement... Alors, le terme Covid long, on va pas gloser là-dessus, mais c'est multiple. Hein. Mais il y a la majorité des patients, ce sont des syndromes de fatigue chronique post-Covid. Et donc ça, on l'avait décrit avec les mononucléoses infectieuses. Donc les infections virales déclenchent une réaction de fatigue qui est physiologique et qui ne va pas se désactiver, les gens restant fatigués d'une manière avec une espèce de d'auto-entretien et qui est conduit à cet état de fatigue chronique permanent et d'intolérance à l'effort.
C'est ça, qu'en fait, on a une infection qui développe chez des sujets sains une réponse immunitaire, mais qui est excessive. C'est comme si le système immunitaire est activé, mais qui se calme plus.
Par exemple, quand il y a des expériences qui sont très intéressantes, qui ont été menées à l'occasion de la Covid chez le cochon d'Inde, on peut faire un petit Covid chez le cochon d'Inde, et ce qu'on voit, c'est même si l'infection est complètement disparue, est guérie, on trouve pendant jusqu'à 7 semaines après l'infection des marqueurs d'inflammation dans le cerveau. C'est-à-dire qu'il y a une réaction inflammatoire du cerveau, alors effectivement il faut aller regarder le cerveau directement pour le voir, qui persiste bien au-delà de la résolution de l'infection.
On arrive vers la fin de cette discussion. Ce syndrome de fatigue chronique, on n'a pas de traitement et la recherche des molécules candidates pour ces traitements-là, il n'y a pas de financement non plus qui sont injectés pour aujourd'hui.
Non, malheureusement, c'est un sujet très difficile. D'abord, il faut des structures d'évaluation et de traitement des patients. Ça, je pense que, à l'instar de ce qui était fait pour la douleur, hein, c'était quand même un gros plus pour les patients. Mais je pense qu'il faut maintenant passer à la même chose pour la fatigue chronique. Il y a des traitements qu'on utilise de manière empirique, dont certains ont vraiment une efficacité, mais pas chez tous les patients. Donc il y a vraiment un besoin de stratification des patients et d'arriver à identifier des caractéristiques qui font que tel patient, eh bien, sera mieux traité par tel traitement que par tel autre.
Et ensuite seulement, on pourra peut-être entamer des essais thérapeutiques. Donc.
Ah oui, il faut avoir des structures dédiées pour pouvoir faire des essais thérapeutiques.
Alors dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandre Morales. Mais merci beaucoup François-Jérôme Mautier. Merci Mathias Pessiglione.
Merci
de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Tout de suite, on change complètement de sujet. On va sur Mars. Dans la chronique Avec Science, Alexandre Morales nous parle de son histoire géologique.
Que nous disent les météorites martiennes? Aujourd'hui, je vous parle d'une étude française publiée dans Nature Geoscience qui révèle les résultats de l'analyse d'une météorite dite Black Beauty. Comme vous pouvez l'imaginer, étudier Mars, ce n'est pas une mince affaire. On l'observe de loin, d'abord grâce à nos télescopes, avec des sondes spatiales et maintenant on envoie même des robots à sa surface. Vous avez probablement déjà entendu parler des rovers américains Curiosity et Perseverance. Mais l'idéal est quand même de pouvoir désosser une roche en laboratoire. Alors, les scientifiques se servent de météorites martiennes. Ce sont des fragments de la planète rouge qui se sont écrasés sur Terre. Grâce à l'étude de ces météorites, généralement d'origine volcanique, on imaginait jusqu'à présent que Mars devait avoir une surface plutôt basaltique, comme la croûte océanique terrestre. L'explication viendrait du fait que les roches basaltiques sont les premières à être formées au moment où une planète commence à fondre, un mécanisme qui a eu lieu de la même manière sur Terre et sur Mars.
Par la suite, Mars se serait solidifié sans plus de modifications, tandis que notre planète a subi largement et subit encore une tectonique des plaques qui déplace et transforme ces roches. Cette hypothèse d'une Mars de basalte, déjà ébranlée par les analyses des rovers sur place, est remise en cause par de nouveaux résultats. Brigitte Zanda est enseignante-chercheuse au Muséum national d'histoire naturelle, spécialiste de l'étude des météorites et co-autrice de cette publication.
Mars, on pensait que c'était un monde relativement morne, basaltique, où il se passait pas grand-chose. C'était la vision qu'on avait pendant très longtemps et que finalement les météorites martiennes auxquelles on avait accès confortaient dans une certaine mesure. Et puis il y a un peu plus d'une dizaine d'années, il y a eu ces premiers fragments de cette roche qui ont été découverts. Beaucoup de météorites, et c'est le cas de celle-ci, sont découvertes dans des déserts par des locaux. Et donc, il y a des fragments de Black Beauty qui sont arrivés aux États-Unis. Et nos collègues américains ont commencé à les étudier. C'est eux, d'ailleurs, qui ont donné ce nom de Black Beauty. Et quand, moi, on m'a présenté le premier échantillon de cette roche, la personne qui me l'a présenté, qui est un collectionneur français de météorites, Luc Labène, pensais que il s'agissait d'une météorite primitive et en la mettant sous une loupe binoculaire, j'ai dit non, c'est pas ça. Et ça ressemble à un morceau de la surface concassée de la Lune. Ces roches concassées et recompactées qui forment la surface de la Lune ou de certaines planètes, ça on ne sait pas, mais probablement aussi.
Black Beauty, c'est donc une météorite contenant des fragments de roches différentes, agglomérées, et dont les morceaux ont été éparpillés dans les laboratoires à travers le globe. Le morceau qui nous intéresse ici est nommé NWA7533, et depuis une douzaine d'années, les scientifiques l'analysent sous toutes les coutures. Ils l'ont étudié avec des techniques de microscopie, de chimie et de spectroscopie notamment. Alors d'abord, ils ont appris qu'il s'agit d'une roche vieille de 4,4 milliards d'années. C'est plus que tout ce que l'on peut retrouver sur Terre à cause de l'érosion et de l'activité géologique de la planète. Pour rappel, la Terre s'est formée à peu près en même temps que Mars, il y a environ 4,5 milliards d'années. Ensuite, ce que révèlent les dernières analyses, c'est que certaines unités de cette roche contiennent du quartz, un minéral composé de silicium et d'oxygène. Il est très solide et très courant sur les continents terrestres, c'est de quartz que sont faits les grains de sable de nos plages. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les roches qui contiennent du quartz sont plus légères, ce qui leur permet en quelque sorte de flotter par rapport au basalte. Mais Mars étant une planète dont l'activité géologique s'est arrêtée très tôt, il était peu probable de trouver ce minerai à sa surface. L'explication de sa présence pourrait se trouver dans un bombardement massif de la planète Mars par des astéroïdes qui l'auraient partiellement refondu.
On pense que la planète Mars a dû être fondue peut-être sur une cinquantaine de kilomètres d'épaisseur. Et alors là, vous avez la possibilité de faire évoluer chimiquement un magma. Donc, on pense que ces premières roches plus riches en silice se sont formées à la suite d'un impact qui a fondu localement ou sur une grande surface les couches superficielles de Mars. Et puis, il y a une autre chose aussi qui s'est passée, c'est qu'un de nos collègues, il y a quelques années, en procédant à des reconstructions géomorphologiques de ce que pouvait être la surface de Mars peu après sa formation, avant qu'il y ait les grands bassins d'impact qui se forment, avant que les grands volcans se forment, il a montré qu'il y avait au sud de Mars une zone extrêmement épaisse, beaucoup plus épaisse, qui semblait persistante. Il a pensé qu'il s'agissait peut-être d'un proto-continent. Ça, c'était une autre indication qui s'était peut-être passée des choses sur Mars, qu'il y avait peut-être quand même des proto-continents martiens qui avaient commencé à se former.
Par ailleurs, la formation de granit à partir de magma est largement facilitée par la présence d'eau. C'est un indice parmi d'autres qui pousse les chercheurs à penser que la planète rouge a dû arborer des teintes bleutées et porter des océans à sa surface au tout début de son histoire.
Merci Alexandre pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la science CQFD. Ève Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Maguet de Saint-Vulfran, Noémie Eliazor, Bruno Sansini, Loïc Dutoit, Ali Ruyère-Thompson. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Axel Dang. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.